Signe des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Du terrorisme à la pandémie, la vie quotidienne telle que nous l'avons connue semble être en train de se modifier radicalement. Ce n'est pas seulement la possibilité d'improviser une après-midi shopping ou une soirée au restaurant qui est atteinte, mais notre rapport au temps, la possibilité de prévoir et de se projeter dans l'avenir. Notre lien civil au temps, en d'autres termes, laisse place à une culture presque militaire du choc, de la protection et du risque. La notion de victime s'élargit jusqu'à devenir presque potentiellement synonyme de ce qui peut arriver à chacun d'entre nous, tandis que la vie quotidienne se voit colorée d'une teinte d'apocalypse. Notre époque, qui refoule la mort, s'enfonce-t-elle dans cette culture victimaire, ou bien sommes-nous en train de faire l'apprentissage d'une nouvelle condition qui n'est plus régie que par une culture du trauma et par ce que les spécialistes appellent le syndrome post-traumatique? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Denis Péchanski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, co-responsable scientifique du programme 13 novembre, dont on va parler dans un instant, et vous êtes le coordinateur des deux livres qui sortent en ce moment, Victimes du terrorisme aux éditions Hermann, et 13 novembre, des témoignages, un récit aux éditions Odile Jacob. Jacques Dayan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de pédopsychiatrie, spécialiste de santé publique à l'INSERM, et vous avez écrit plusieurs articles, dont un en anglais qui s'appelle From Hysteria and Shell Shock to Post-Traumatic Stress Disorder. Et enfin, Arthur Desnouveaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né en 86, vous êtes polytechnicien, ou ex-polytechnicien, enfin vous avez fait polytechnique, et vous êtes un survivant de l'attaque du Bataclan du 13 novembre 2015. Vous êtes aussi le créateur d'une fintech qui s'appelle Machina Capital l'année suivante, en 2016, et le créateur d'un micro-label de musique rock qui s'appelle Left Front Door, financé avec votre indemnité de victime, la même année, en 2016, et par ailleurs, chevalier de l'Ordre du Mérite en décembre 2019. Alors, d'abord, le syndrome post-traumatique, on va essayer de le définir. Qu'est-ce que c'est exactement? Jacques Dayan, peut-être, pour commencer.
Oui, donc le syndrome ne serait-ce post-traumatique a une histoire un petit peu longue.
Oui.
Donc, pour aller très vite, elle a deux histoires, et qui sont parallèles et qu'on peut communiquer entre elles. Une touche la guerre et l'autre les victimes d'agressions sexuelles et de viols. Et ces deux chemins se sont faits parallèlement avec assez peu d'interaction. Alors maintenant, on a trouvé un nom qui a unifié pas mal de théories, alors qu'avant c'était vraiment très énigmatique. On a appelé ça la soudanite, la tonkinite, le syndrome de la guerre du Golfe, l'obusite, etc. Et on a unifié ça sous le nom de trouble de stress post-traumatique. Simplement, ça unit des intrusions, c'est-à-dire des pensées, des sensations, des rêves, des cauchemars, qui viennent à l'insu de la personne et jusqu'au flashback, c'est-à-dire l'impression de revivre le trauma lui-même, et qui sont chargés d'angoisse, de malaise, de colère, enfin de sentiments extrêmement pénibles, de non variés. Et l'autre élément, c'est la volonté d'éviter ça. Donc d'éviter à la fois toutes les pensées qui peuvent se ramener au trauma, mais d'éviter tout ce qui peut le rappeler, les lieux, les gens, les anniversaires. Donc on a un double mouvement de rappel et d'évitement, et qui est toujours en interaction, et sur un fond d'hyperactivité biologique, d'érétisme cardiaque, de sueur, etc. Surtout quand... de troubles du sommeil, quand vient être appelé l'événement, ou même spontanément, et associé à des troubles de la mémoire et des troubles de la cognition, qui entraînent vraiment une gêne très importante dans la vie individuelle, familiale, sociale, etc.
Denis Péchanski, il y a une histoire de ça. Les premières manifestations répertoriées du syndrome post-traumatique se remontent, je crois, à la Première Guerre mondiale, mais on ne savait pas du tout comment le diagnostiquer à l'époque.
Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une pathologie qui existe.
Oui.
Et l'invention sociale de cette pathologie est bien plus tardive. Et elle est née de la guerre du Vietnam. Alors, effectivement... on l'a déjà repéré très fortement, évidemment, dans la Première Guerre mondiale et ses suites, puis la Deuxième Guerre mondiale. Mais je dirais l'entrée dans la dans le savoir académique et bientôt dans la mémoire collective, postérieurement, c'est d'abord les années 70, la fin des années 70, la guerre du Vietnam
et le mouvement féministe aux États-Unis. Et le mouvement féministe, oui.
Et donc c'est exactement ce qu'évoquait Jacques Dayan sur les deux composantes. Elles sont réunies et on arrive à une série de critères qui définissent officiellement dans ce qu'on appelle le DSM-5 aujourd'hui, donc la cinquième édition du DSM.
Alors, le DSM, c'est l'encyclopédie de la psychiatrie, en fait.
Voilà, avec tous les types de maladies, pathologies. Et là, la définition, elle est donnée par ce qu'indique Jacques en disant que, par ailleurs, on a bien sûr dans une situation traumatique un choc. Et qu'on parle de trouble de stress post-traumatique si le choc s'incruste, en quelque sorte, il dure plus d'un mois. Quoi. Mm-hmm. Le cadrage, il est là. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça a une histoire. C'est la même chose pour la victime. La représentation centrale de la victime a aussi une histoire. Est-ce que c'est d'hier, d'aujourd'hui, d'avant-hier? Voilà, on pourra y revenir.
Oui, alors on va y venir, oui. Mais pour finir sur l'histoire du PTSD, pendant la Première Guerre mondiale, certains soldats étaient atteints de troubles qu'on associe à la lâcheté. En fait, on n'arrivait pas du tout à comprendre ce qui se passait. Ils n'avaient pas forcément vécu directement des choses, mais ils étaient atteints de troubles qu'on n'arrivait pas à caractériser. Donc, on les traitait de lâches.
Alors ça, c'est la clé. Ça a été terrible. Terrible pour les soldats, c'est qu'effectivement, à partir du la première réaction face à ce trouble qu'on définit aujourd'hui comme un trouble de stress post-traumatique avec une maladie psychique tout simplement, c'était de dire bon, ok, il veut fuir le front, c'est la lâcheté, donc évidemment. Pour les protocoles de soins, c'était un peu compliqué.
Oui, parce que ça commence avec la guerre de masse, en fait, avec le moment où tout se massifie. Et puis le deuxième épisode, c'est la Seconde Guerre mondiale, en particulier avec et en France notamment, le syndrome post-traumatique va commencer à acquérir une certaine existence diagnostique avec la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et l'importance donnée aux déportés à partir des années 80. Jacques Dayan.
Oui, je vais dire un petit mot. Donc, c'est une histoire. Alors, elle est tellement riche, cette histoire, qu'il est difficile de la résumer.
Oui, oui. Mais
après la Première Guerre, durant la Première Guerre mondiale, des médecins sur le front voyaient bien que c'était pas de la simulation. Et la question de la simulation était très importante. Pourquoi ? Parce que le risque, c'était des fusillés. Et donc, il y en a beaucoup qui ont été fusillés. Et par exemple, en Angleterre, il y a eu une campagne pour la réhabilitation de ceux qui ont été fusillés durant la guerre de 14, qui n'a pas finalement donné des résultats. Et puis, en fait, on avait acquis un savoir, et en 45, durant la guerre, on a encore oublié. Et donc, à chaque fois, on a oublié. On a réintroduit le stress post-traumatique dans la nosographie, et puis on l'a oublié encore, on l'a retiré. Donc, c'est jamais acquis. Mmh. Donc, il y a quelque chose qui est très, très important, c'est que c'est jamais acquis.
C'est que cette question de la stimulation, c'est important parce que ça veut dire que la victime est confrontée à quelque chose qui dépasse en fait sa capacité d'intégration psychique. Ça peut être au moment de la guerre de 14, c'est vraiment la massification de la guerre et l'emploi d'armes inédites. La Seconde Guerre mondiale, c'est évidemment la déportation. Et la question de savoir si les gens simulent ou pas, mentent ou pas, est évidemment liée à la question. Enfin, la même question se posait, a été dénoncée par les mouvements féministes quand des femmes allaient porter plainte pour viol, par exemple, la question de l'assimilation, la question est-ce que oui ou non il y avait une agression, c'était exactement le même type de questionnement qui se posait, et c'est là que les deux trajectoires se rejoignent dans le diagnostic du syndrome post-traumatique, dans l'étude du syndrome post-traumatique.
Absolument.
Avec toujours ce sentiment de la double peine, mais qu'on retrouve constamment, y compris chez les personnes qui subissent un trouble de stress post-traumatique aujourd'hui, et dont l'histoire n'est pas relayée dans la mémoire collective. C'est-à-dire que non seulement ils subissent le choc, mais en plus ce choc n'est pas reconnu. Alors avant, c'était pas reconnu par la médecine, par la société. Bon, là, c'est pas reconnu, relayé par la mémoire collective. Et évidemment, ça les met en situation de grande fragilité.
Alors, la reconnaissance de la victime à partir surtout des années, la fin des années 70 et 80, pose plusieurs problèmes. Ça pose en partie le problème de savoir ce que c'est qu'une victime, et puis ça pose le problème du retournement de la culture de l'héroïsme à une culture de la victime. C'est un changement de paradigme complet qu'on commence à connaître à partir des années 80.
Et là, c'est l'intérêt de la mise en histoire de ces pathologies ou de ces représentations. Le véritable tournant, ce sont les années 80, et pour prendre l'exemple de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est le milieu des années 80 où la figure du héros qui déjà était estompé, la figure du héros résistant, qui était tellement central dans les années 60, dans les années du deuxième de Gaulle,
oui.
Et logiquement central quand il prend le pouvoir en 58, quelle est sa légitimité ? C'est le 18 juin, c'est le 18 juin 40, c'est-à-dire l'appel à la résistance. Ouais. Et donc c'est logique qu'ils construisent un système de représentation autour de la figure du héros résistant, d'où ce que j'appellerais l'invention sociale de Jean Moulin, avec le discours extraordinaire de Malraux le 19 décembre 64, la panthéonisation. Mais Moulin, bien sûr, les gens connaissaient plus ou moins, mais dans la société, le nom même de Moulin, majoritairement, était inconnu, alors même que, objectivement, il avait un rôle central dans la résistance. Mais à partir de la fin 64, il rentre dans la mémoire collective. Et là, regardez, tous les collèges Jean Moulin, les rues Jean Moulin, les lycées Jean Moulin, à part quelques exceptions, sont tous postérieurs à décembre. Et l'image structurante de la victime juive, puisque c'est la victime juive qui va concentrer la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale en France à partir du milieu des années 80, pas avant, va prendre la place de la figure centrale du héros, même si la figure ne disparaît pas. Et pour nuancer un peu votre propos, je dirais, depuis le quinquennat Hollande, on a une tentative de convergence mémorielle et encore aujourd'hui avec le quinquennat d'Emmanuel Macron, on a une convergence mémorielle entre figure de la victime toujours très présente et figure du héros.
Alors on va y venir tout à l'heure. Jacques Dayan.
Oui, alors la reconnaissance psychiatrique, médicale du trouble a joué un rôle extrêmement important, c'est-à-dire a permis une certaine forme d'objectivation et qui a induit une certaine forme de respect. C'était très important. Par exemple, les anciens combattants de la guerre d'Algérie n'ont pas bénéficié de ça. Mmh. Et en fait, souvent, je me souviens quand j'ai fait mes études au tout début, on disait à un alcoolique déprimé avec un syndrome de stress post-traumatique, ça n'existait pas. Donc on disait c'est encore un ancien de la guerre d'Algérie. Il n'y avait aucune préoccupation, aucune reconnaissance de la souffrance. Donc le fait que qui ait une reconnaissance médicale, ça a changé le statut.
Oui, mais ça pose aussi on va pas rentrer là-dedans en détail, mais ça pose quand même un problème politique de fond. Par exemple, les vétérans du Vietnam, à partir du moment où ils se retrouvent, ils peuvent acquérir le statut de victime eux aussi, alors que quelquefois ils ont tué quand même. Arthur de nouveau.
Oui, il faut bien voir qu'il y a une éruption dans la culture populaire qui vient des États-Unis après le Vietnam. Moi, quand on me demande quel est le meilleur film sur le stress post-traumatique, c'est un peu trivial, mais c'est Rambo.
Oui.
C'est cette histoire de l'anti-héros qui, en fait, est incapable de mettre à une distance raisonnable le trauma qu'il a vécu à la guerre, ce qui rend impossible sa réinsertion dans la société. Et c'est un problème que les Américains ont et qui est devenu un grand problème politique chez eux. Les vétérans sont un enjeu politique fort à chaque élection aux États-Unis. Et donc, on voit qu'à partir des années 70-80, on a, dans vraiment la culture populaire et dans l'imaginaire collectif, la réalisation de ce trauma de guerre qu'on appellera stress post-traumatique.
Mmh, mmh. Alors, vous avez écrit avec Antoine Garapon, « Victime et après » en 2019, qui est une réflexion, c'est pas du tout un texte de témoignage sur votre expérience, mais c'est une réflexion sur la question de la victime. Une des premières choses dont vous parlez, c'est le sentiment d'arrachement de la victime, arrachement à son univers quotidien, une séparation d'autant plus difficile à comprendre que la société se réunit autour de la victime. C'est-à-dire qu'il y a une attention qui est donnée à la victime et en même temps, À l'intérieur, il y a un sentiment de séparation qui, subjectif qui est très fort.
Oui, bien sûr. Je pense que c'est pas un hasard si le stress post-traumatique est à la fois visible dans les actes de guerre, comme le terrorisme, ou dans les agressions sexuelles. C'est que ça s'attaque pas à l'avoir, ça s'attaque à l'être. Mmh. Et il y a vraiment cette rupture entre ce que vous étiez avant et ce que vous étiez après. Et c'est de ça dont on essaye de parler dans le livre. Et toute la bienveillance qui est exprimée envers les victimes est fondamentale, évidemment. Mais elle n'est pas suffisante. Parce qu'en fait, elle vous construit dans cette nouvelle identité de victime dont il faut en fait savoir sortir. Et c'est ça une des choses importantes quand on subit un trauma fort, c'est d'accepter toute la bienveillance et à un moment de savoir s'en détacher. Il y a une forme de dire il me reste quelque chose à faire moi-même. Toutes les indemnisations, toutes les belles paroles, toute l'aide que vous pouvez m'apporter, je la prends, mais il y a un moment où je vais devoir moi agir pour redevenir une nouvelle personne.
Vous dites, je suis moins que, enfin, c'est pas vous qui parlez, c'est un survivant du Bataclan, un autre. Je suis moins que moi-même, et pourtant ma parole médiatique et politique a pris un poids immense. Mon histoire vient de se prendre de plein fouet l'histoire avec un grand H. Là, c'est le type de choc qui renvoie à pratiquement toute l'histoire du XXe siècle. Parce qu'une des choses, là, je vous pose la question à tous les trois, c'est un des grands tournants du XXe siècle, c'est tout de même ça, c'est-à-dire c'est le moment où les civils deviennent la cible de l'activité militaire et guerrière. Peut-être d'abord Arthur Desnouveaux.
Oui, on arrête de s'attaquer au souverain, on n'en est plus à attaquer Henri IV, on en est à attaquer le citoyen, parce qu'il fait partie du peuple français. Mmh. Et donc il y a un basculement de la guerre vers l'individu. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, le terrorisme, comme la guerre contre les civils, n'est pas aveugle. Mmh. Chaque victime est choisie au hasard, mais de manière globale, il y a un choix qui est fait.
Mmh. Denis Péchanski.
Oui, dans l'histoire, je dirais, il y a deux moments. Le tournant, le vrai tournant, c'est la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est la première fois où on a plus de victimes civiles. Ou à peu près autant de victimes civiles que de victimes militaires. Donc on rentre déjà dans une autre logique. La deuxième étape, c'est à partir du moment où le terrorisme devient arme centrale de guerre. Mmh. Et d'où, évidemment, une attaque directe, non pas contre des militaires, mais contre des armées, armées contre armées, mais contre des civils pour déstabiliser la société visée de l'intérieur.
Mais ça, c'est déjà le message envoyé par l'invention de la bombe atomique. C'est-à-dire que la bombe, c'est la première arme qui est inventée pour toucher des cibles civiles, puisque par définition, elle a aucun sens sur un champ de bataille.
Et pour faire plier les décideurs.
Pour faire plier les décideurs. Donc c'est cette logique-là, cette logique de la terreur qui date de la guerre froide et qui va se disperser ensuite après la fin de la guerre froide.
Mais on est quand même dans une logique militaire. Oui. C'est-à-dire que l'idée, c'est on veut faire arrêter la guerre, donc face à cette situation exceptionnelle, on prend une mesure exceptionnelle. Quitte à ce que ça coûte la vie à des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. Peu importe, mais on arrête la guerre. Le terrorisme, comme arme de guerre, c'est une autre logique. C'est pour mener cette guerre-là.
Oui, c'est pas
et
pour arrêter.
On suit et on poursuit des cibles.
Mais le terrorisme, c'est aussi la bombe atomique du pauvre. Hein. C'est-à-dire que avec peu de moyens, effrayer une population extrêmement large. Donc il y a insuffler la terreur, c'est insuffler la crainte, et donc dans la réaction que va avoir la société et tous ses acteurs va jouer un rôle essentiel pour pas que les forces de déliaison l'emportent face au terrorisme.
Emmanuel Lévinas, que vous citez, Arthur Desnouveaux, écrit dans Totalité et Infini, la violence ne consiste pas tant à blesser et à anéantir qu'à interrompre la continuité des personnes, à leur faire jouer des rôles où elles ne se retrouvent plus, à leur faire trahir non seulement des engagements, mais leur propre substance. C'est-à-dire que c'est le déplacement. La victime est obligée de jouer un rôle qui n'est pas le sien tel qu'elle se l'est défini jusqu'à présent.
Oui, c'est la force du terrorisme qui nous fait peur à tous, c'est vraiment d'imposer à ses victimes et par ricochet à la société de leur faire jouer un rôle qu'elles n'ont pas envie de jouer. Et c'est d'essayer de provoquer un tel déplacement qu'en fait, on va pas aboutir à une guerre civile, mais vraiment à une guerre du chacun contre chacun, tous contre tous. Et de dire, j'ai interrompu qui vous étiez, j'ai interrompu la société à laquelle vous apparteniez, et sachez écouter ça et agissez en conséquence. Et c'est pour ça qu'il faut être très prudent dans la réaction face au terrorisme.
Arthur, des nouveaux dans Victime et après, vous parlez de la sacralisation de la victime. Hein. Vous citez René Girard. Vous dites que toute victime est par nature une victime substituée. C'est la notion de sacrifice. Et en l'occurrence, dans le terrorisme, la partie vaut pour le tout. C'est-à-dire que la victime vaut pour l'ensemble de la société, au moins dans l'esprit du tueur.
Oui, et la victime survivante est celle qui aurait dû être sacrifiée et dont le sacrifice a raté, et qui porte donc une marque sur elle de sacralité. Et on lui accorde à la victime tout un tas de choses, et notamment un côté oracle. On a envie d'interroger la victime sur ce qu'elle pense sur tout un tas de sujets. Et il y a une confusion entre l'expérience de ce qui a été vécu et l'expertise. Qui n'est pas du tout immédiate et qui peut venir pour ceux qui arrivent à se remettre du choc, qui arrivent à le penser et qui arrivent en fait à le dépasser.
Mais c'est ce que vous appelez dans le livre, enfin le victim business, c'est-à-dire que oui, la victime se voit investie d'un pouvoir d'expertise sur un sujet qu'elle maîtrise pas, comme par exemple le terrorisme ou la politique internationale, parce qu'elle se trouve au Bataclan ou sur les quais de la Seine au mauvais moment. Et vous dites que ça peut devenir un piège parce qu'il peut y avoir aussi une sorte on peut être grisé par ça aussi.
Oui, on fait monter la victime sur une estrade, on la met sous les projecteurs médiatiques, et c'est un piège dont il faut aussi savoir se sortir. Et c'est encore une fois, on vient attribuer à la victime quelque chose qu'on lui aurait jamais attribué sans cet événement. Et c'est très dur, parce que être victime de terroriste, c'est le summum de la passivité. Vous êtes à un endroit, un terroriste vient imprimer quelque chose sur vous, et ce quelque chose, le reste de la société le voit encore après. Et vous, ça peut être grisant d'aller dans les médias, d'écrire un livre, d'être reconnu. Mais ce qui est horrible, c'est que vous êtes reconnu pas parce que vous avez fait, mais parce qu'on vous a fait.
Parce qu'on a essayé de vous faire. Exactement. Oui, c'est-à-dire Denis Péchanski et Jacques Dayan, ce problème-là d'une passivité forcée, mais quand même absolue, d'un instant de passivité totale. Est-ce que c'est pas un problème que ce soit retourné comme ça en forme de d'héroïsation presque par les médias d'abord? Et puis par l'ensemble de la société éventuellement. Est-ce qu'il n'y a pas un retournement compliqué?
Si Jacques Dayan. Denis, vas-y. Si, je pense que ça dépend aussi du type de trauma, ça dépend de l'histoire, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un sentiment d'aliénation, de perte de contrôle, de défaite, et de d'impuissance totale, qui est vraiment quelque chose de tout à fait particulier, et qui est une expérience unique. À partir de cette expérience, ça va être très très difficile de se reconstruire. Et on peut accepter d'avoir été victime, mais il est très difficile d'accepter d'être victime.
Oui.
C'est-à-dire essentialiser quelqu'un au statut de victime, c'est finalement le départir de toute capacité d'agir sur le monde. Et donc il y a vraiment cette volonté-là. Alors effectivement, ça pose véritablement un problème. Et il y a une interrogation aussi qui peut être menée selon le type de PTSD. Qu'est-ce qui l'a entraîné ? Par exemple, quand il s'agissait de traumas sexuels, il y a des victimes garçons qui supportaient absolument pas le mot victime parce que ça les renvoyait une double passivité. Passivité d'avoir été victime et d'avoir été attaqué. Et donc, ils trouvaient pas une réparation, mais au contraire, quelque chose d'insupportable. Donc, il y a peut-être effectivement une interrogation sociétale sur ce renversement-là.
Pour avoir suivi le procès des attentats de janvier, par exemple, les journalistes de Charlie Hebdo qui viennent témoigner, et aussi d'ailleurs les gens qui étaient à l'hypercachère à Vincennes, prennent tous la précaution de dire qu'ils refusent le terme de victime. Tous. Ils emploient le terme de survivant, ils refusent tous le terme de victime.
Denis Péchon. Oui, mais ça renvoie au caractère de la cible. C'est-à-dire qu'eux, ils ont été ciblés,
oui.
Parce que eux,
oui. Oui.
Journalistes parce que journalistes, juifs parce que nés juifs, et policiers parce que policiers. Les jeunes qui sont attaqués au Bataclan sur les terrasses, Diaz qui est mort au Stade de France, ils n'étaient pas spécialement visés. Ce qui d'ailleurs entraîne un changement dans la perception que la société peut en avoir. Parce que autour de janvier, qu'est-ce qui s'est passé avec cette manifestation qui était la plus grande manifestation de tous les temps, hein, celle du 11 janvier 2015, c'est qu'on est allé chercher finalement la mémoire des valeurs partagées, celles qui sont héritées de la Révolution française, et puis un siècle plus tard, la République laïque. Et c'est ça qu'on a mobilisé dans la réponse qu'on a voulu donner aux terroristes, ce qui a créé d'ailleurs déjà à ce moment-là un certain nombre de problèmes avec certains segments de la société qui ne s'y reconnaissaient pas. Mais quand arrive la réponse au 13 novembre, ça n'est plus « on se mobilise au nom de nos valeurs partagées pour vous défendre, vous les autres victimes, parce que cible », le 13 novembre, c'est « nous sommes tous potentiellement des victimes », soit parce que nous avons l'âge d'être ciblés, soit parce qu'on a l'âge d'être les parents de ceux qui sont ciblés. Et c'est ça qui change complètement la donne et qui change aussi la représentation qu'on a dans la mémoire collective du 13 novembre par rapport à janvier, ou les problèmes qu'on a pu connaître dans la suite des deux attentats terroristes liés au procès de janvier.
Oui, vous écrivez, Arthur Desnouveaux, l'un des acquis les plus importants de la Révolution française, pour parler de ses valeurs, c'est la présomption d'innocence. Et c'est cette présomption d'innocence que le terrorisme, d'une certaine façon, nie, puisque pour la par définition, pour les terroristes, il n'y a pas d'innocent, tout le monde est coupable, par principe. Et donc, ce qui est attaqué, c'est la vie civile en tant que telle.
Oui,
l'idée même de vie civile, la trêve que représente la vie civile, l'espèce de la possibilité que le temps puisse s'écouler pour un individu.
Oui, et c'est intéressant que vous fassiez référence au procès. J'aimerais bien revenir là-dessus. Moi, par exemple, entre victime, survivant ou rescapé, j'utilise les trois assez indifféremment. Et en fait, je crois pas qu'il y ait une grande différence entre ces trois termes. Ce que m'a fait réaliser ce procès des attentats de janvier 2015, c'est qu'en fait, un procès réussi, il prend une victime, pour prendre un des trois mots, et il le transforme en témoin. Et c'est ça, moi, qui me paraît très important. C'est que l'action de justice va vous permettre de rentrer dans l'action, justement, quand vous êtes un survivant, et va vous permettre de poser dans la balance de la justice quelque chose qui vous fait récupérer une forme d'innocence et qui vous fait revenir dans cet état de société. Et c'est aussi un des acquis de la Révolution française d'avoir une justice qui fonctionne comme la nôtre à l'heure actuelle. Et ça, c'est fondamental.
Oui. Alors, avant d'aborder la question du Covid, je voudrais rester une seconde sur cette histoire de justice et le paradoxe du témoin. Parce que la victime se retrouve placée, quand elle survit en tout cas, sous les projecteurs. Elle devient un témoin, elle raconte son histoire dans le cadre du procès, mais l'idée c'est quand même qu'elle, si tout se passe bien, qu'elle redevienne anonyme. C'est comme ça qu'elle cesse d'être une victime. Or, l'un des enjeux de ce qui se passe en ce moment, il me semble, c'est qu'on n'y arrive pas vraiment. C'est-à-dire que la poursuite des attentats terroristes, par exemple le meurtre de Samuel Paty pendant le procès des attentats de janvier, vient réactiver. On n'y a pas de retour possible à l'anonymat en ce moment. On n'y arrive pas. Jacques Gaillon.
Oui, alors, vous soulevez la complexité, finalement, des processus en cours, puisqu'ils sont sur des échelles de temps très différentes et sur des objectifs très différents. Par exemple, le procès, une des fonctions essentielles, c'est de témoigner que ça a bien eu lieu. Mm-hmm. Et ça, c'est le principe de réalité. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est une histoire tellement incroyable que il est difficile de l'admettre, et là c'est exposé à toute la population et il y a un assentiment, et donc on peut en croire ses yeux et ses oreilles, et ça c'est un élément très très important du parcours. Et l'autre élément, c'est reconnaître l'atrocité. Alors ce que vous dites sur l'impossibilité de mettre fin au trauma, je ne sais pas, on va en parler tout à l'heure, mais c'est sûr qu'il y a des rappels qui sont faits incessamment et qui gênent, qui sont un frein à la guérison. Et par exemple, si on part du Rwanda, je suis retourné au Rwanda après donc le génocide, et ce qui se passe, c'est que après, on a brûlé leurs maisons, on les a attaqués, on les a violés, etc., etc. C'est-à-dire, ils sont dans une culture de violence tellement forte que finalement, c'est un trauma au long cours et ils ont d'autres mécanismes d'adaptation, parce que c'est plus possible de le mettre de côté.
Mais il me semble que, enfin, pour finir sur ce chapitre, il me semble qu'on a affaire à quelque chose d'un peu particulier en ce moment, c'est qu'à la fois le trauma est réactivé par des attentats et qu'en même temps la narration est plus ou moins niée. C'est-à-dire qu'il y a, ça ne passe pas. La narration du procès, par exemple, on a consacré une émission entière à ça, je ne vais pas y revenir en détail, mais reste cantonnée dans la grande presse, n'atteint pas complètement l'opinion générale, il me semble, et certainement pas les réseaux sociaux. Arthur Desnouveaux.
Oui, c'est assez difficile devant l'énormité de la douleur, l'énormité de la souffrance et la complexité sociétale de cette vague d'attentats, de vraiment sortir des grands médias. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et vous parlez des attentats de janvier, mais il y a un procès passionnant en ce moment qui est le procès dit de l'attentat du Thalys, avec en plus les prémices de l'équipe qui ont attaqué la France le 13 novembre. Et alors là, ça a été par exemple totalement masqué par la couverture de l'affaire Jonathan Daval. Et donc en fait, tout ce qui est intéressant, tout ce qui est le plus intéressant, finalement, ne sort que très peu, parce que c'est des sujets complexes. Mm-hmm. De la même manière, Richard Malka a fait une plaidoirie formidable cette semaine au procès des attentats de janvier, et vous avez un article précis dans Le Monde, et vous avez des live tweets de journalistes si vous voulez aller les suivre. Mais en revanche, on va pas en parler au journal de 20h. Et ça, c'est un vrai problème pour guérir. Et finalement, on peut se demander s'il n'y a pas une forme de stress post-traumatique sociétal. C'est impossible, mise à distance. Et donc, on en revient à deux choses. Soit il y a une irruption trop souvent, soit il y a une stratégie d'évitement complet qui consiste à pas en parler. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer actuellement.
Alors, je voudrais qu'on, dans les minutes qui restent sur cette émission, je voudrais qu'on fasse le lien, parce qu'on sent bien tous qu'il y a une sorte de lien avec ce qui se passe avec la pandémie, mais c'est un lien qui est très, très difficile à déterminer. André Desnouveaux, vous l'abordez franchement avec Antoine Garapon dans le petit texte qui est sorti dans la collection Tract chez Gallimard, du choc à l'expérience. Et c'est ça le point commun, c'est le premier point commun, c'est une question que je vous pose à tous les trois, Denis Péchanski, le rapport au choc, la vie quotidienne dans l'état de choc permanent.
Oui, avec une singularité qui n'est pas simplement liée au nombre de morts, parce que ça ne l'identifierait pas par rapport, même si il est loin d'être marginal, mais ça ne l'identifierait pas par rapport à d'autres phénomènes comparables, et de pandémies un peu du même type. C'est évidemment la singularité du confinement, la singularité de cette récurrence et des répliques. Ce qui me frappe, c'est le changement de configuration mémorielle, de régime mémoriel, si on prend un terme que j'ai essayé de forger. On voit bien que autour du Covid, la figure structurante, c'est c'est pas la figure structurante de la mémoire collective du Covid qui est en train de se construire dans l'événement lui-même. Ça n'est pas la figure de la victime. Mm-hmm. C'est la figure du héros soignant.
Oui.
Ce qui change la donne.
Ça change la donne.
De la même façon, on verra ce que donneront les procès. Ça fait partie des mécanismes de résilience, bon, le mot qu'on n'a pas utilisé trop jusqu'à présent et qui est au cœur de nos échanges. Comment on se reconstruit, on verra bien l'impact sur la mémoire collective. Oui, effectivement, la plaidoirie exceptionnelle de Malka, bon, on relaie comme on peut, mais on voit bien que c'est pas ça fait pas la une du 20h. Et en même temps, on verra si ça a un impact ou pas. Mmh, mmh. Et on voit bien qu'il y a aussi que dès l'événement lui-même, on a la figure de la victime qui est centrale. Mais puisqu'on évoque le Thalys, on a la figure du héros.
Oui, sur le Thalys, clairement.
Samuel Paty, la victime qui est mise en avant.
C'est son héros.
C'est le héros.
Oui.
C'est le hussard noir de la République qui faisait son métier, parce qu'il défendait ses valeurs, a été tué. Mmh. Et donc c'est bien la figure du héros qui est mise en avant. Je veux dire, quand basculement majeur dans le discours présidentiel, Emmanuel Macron a rendu hommage à Beltrame, il a dit « Je veux qu'on oublie le nom du terroriste de Trèbes ». Qu'on ne se souvienne que du nom.
Mais il me semble qu'il y a quand même une ambiguïté, parce que Paty est un héros, mais il apparaît aussi comme un professeur victime. Le personnel soignant est héroïsé, mais en même temps, Jean Castex dit la meilleure façon de protéger nos soignants, c'est de ne pas tomber malade. Donc les soignants apparaissent là comme un personnel à protéger. On pourrait faire la même réflexion avec la police, d'ailleurs, qu'il faut protéger. Il y a cette idée.
Il y a une ambivalence.
Il y a une ambivalence, il me semble. Et même Beltrame, d'ailleurs, le fameux lapsus. Il est mort victime de son héroïsme, c'est un lapsus qui est quand même extraordinaire. Oui, Jacques Dayan.
Mais oui, je pense qu'il y a peut-être la peur qui joue beaucoup,
oui.
Quand même. On ne peut pas la mettre sous le boisseau. Quand on a commencé à travailler sur le stress post-traumatique pendant la guerre, on a complètement transformé, on les a soignés avec proximité, sécurité, simplicité, espoir. C'était ça les règles. L'espoir est attaqué, la peur est présente. Et la peur, elle est présente et elle n'est pas dite. Il y a encore un déni, c'est-à-dire il y a une crainte quand même du Covid, pas énorme mais pesante. Il y a une crainte du terrorisme, pas énorme mais pesante, c'est-à-dire quelque chose qui imprègne l'ambiance et qui est très très important et qui donne une coloration importante et qui est très peu explicité. Mmh. Et qui, d'après moi, joue un rôle très important dans l'évolution du stress post-traumatique et de la population. On a regardé un peu, nous, ce qui se passait pour les sujets victimes et pour la population générale suite à cela. En fait, le problème a été le déconfinement. Avec le confinement, il y avait l'espoir, même si il y avait plein de problèmes, ça allait, grosso modo. Ouais. C'est le déconfinement qui a commencé à ramener les problèmes. Un déconfinement où l'espoir s'amenuisait, où on voyait pas la fin.
Arthur, de nouveau, vous parlez à propos du virus, vous parlez du choc du Covid, vous parlez d'un état qui se manifeste, l'état de choc se manifeste d'abord par une suppression du temps. Il coupe du passé, du présent, de sa routine, mais aussi de l'avenir. Vous dites que certains ont vu dans cet événement une invention maléfique du beau pouvoir pour se maintenir, d'autres une punition divine. Et vous dites, d'une certaine façon, les deux ont raison à leur manière, car nous vivons en même temps le stade ultime du monde d'hier et un stade premier du monde de demain.
Oui, et d'ailleurs, il y a moyen de faire le lien avec ce qui vient d'être dit. C'est cette peur de la permanence.
Ouais.
On vit dans un espèce de temps suspendu, on est dans un état d'urgence, que ce soit terroriste ou sanitaire, qu'on nous promet être temporaire. Et en fait, on refuse actuellement d'accepter les ruptures telles qu'elles se produisent, alors que les ruptures sont souvent une source de progrès. Elles sont difficiles à vivre, mais elles s'ancrent dans une temporalité plus longue. Et nous, on essaye depuis plusieurs années maintenant, je pense depuis ces attentats de 2015, de nous dire que on vit une parenthèse. Et que cette parenthèse-là va prendre fin un jour, et que donc on fait des lois pendant cette parenthèse qui n'auront cours que pendant ce moment-là. Mmh. Et en fait, il va falloir sortir de ça à un moment, si on veut embrasser notre époque.
Oui, vous citez Benjamin, Walter Benjamin dans son livre sur Baudelaire, qui dit « Il faut fonder le concept de progrès sur l'idée de catastrophe ». et vous suggérez de prendre au sérieux le terme d'apocalypse parce qu'il constitue aujourd'hui une nouvelle catégorie pour décrypter le monde.
Oui, on en revient au fait que l'exceptionnel qu'on aimerait tenir à distance doit en fait être accepté comme quelque chose qui se produit de temps à autre et qui semble se produire de plus en plus souvent. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il se produit de plus en plus souvent. Et c'est sûrement qu'en fait, on a vraiment cru qu'on était passé, alors je vais laisser l'historien Denis Péchanski après en parler mieux que moi, mais on a cru que l'histoire était finie avec la chute du mur de Berlin. Et donc on a cru qu'on allait vivre dans une espèce de stase permanente, une certaine douceur de vivre. Et en fait, non. Et je pense qu'il faut re-rentrer dans cette acceptation d'un apocalypse qui peut arriver.
C'est-à-dire que c'est pas la même histoire. L'histoire qui a fini, c'est l'histoire à la Hegel. C'est-à-dire l'idée que l'histoire a un sens. On est rentré dans une forme d'histoire qui a pour horizon, au moins fantasmatique, une forme d'apocalypse ou de rupture permanente.
Oui, mais ça se traduit par quoi? Ça se traduit par un effondrement de la référence au progrès.
Oui.
Et l'effondrement de la référence au progrès aboutit à la remise en cause de l'héritage de l'universalisme des Lumières.
Oui, oui, oui.
Et si tout ça s'écroule, on en revient évidemment porte ouverte à tous les discours complotistes.
Oui, bien sûr.
Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. On a beau expliquer, on est confronté à un mur, surtout pas systématiquement, mais quand on consulte mais pas simplement les réseaux sociaux, dans les discussions qu'on peut avoir, qu'on essaye simplement de mettre des éléments de rationalité. On n'y arrive pas.
Mais c'est pour ça que l'idée qu'il faut repenser le concept de progrès en y intégrant la catastrophe, en y intégrant une dimension apocalyptique, me semble porteuse de
d'avenir,
si je puis dire.
À condition que le progrès soit toujours présent,
oui,
et soit pas remplacé par l'apocalypse, mais qu'elle intègre cette dimension d'apocalypse potentiel.
Et vous dites, on va finir là-dessus, hein, Arthur Desnouveaux, vous dites que la victime est en quelque sorte aux avant-postes d'une expérience qui parle à notre temps, et c'est ce qui rend sa situation universalisable.
Oui, je suis content que vous le disiez parce que j'y crois fermement. Mais pour autant, il ne faut pas que la victimisation devienne la seule manière de vivre dans notre société, la seule manière d'être entendu.
C'est ça
le danger.
C'est l'ambivalence.
C'est l'ambiguïté. Sûr que l'expérience de la victimité a l'air d'être porteuse de beaucoup de sens et de beaucoup d'idées fécondes. Pour autant, si on s'y arrête, tout s'arrête.
Ouais.
Et il faut savoir la dépasser.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille, avec à la réalisation Luc-Jean Reynaud et à la technique Benjamin Perru, Andreas Geoffrey, Michel Gassic, Jean-Michel Manière, Wojtek Noiret, Franck Malabry et Francesca Fossati.